Et on va tout de suite partir dans notre dossier de l'émission, qui est en fait donc voilà une rediffusion d'une rencontre débat qu'on avait diffusée en deux parties, donc les 18 et 18 mars et 18 et 7, ça fait 25 mars, 18 et 25 mars 2009, merci. c'est un peu dur le calcul mental parfois. Donc tout ça, c'était un débat qui avait été enregistré au Festival Origines Contrôlées le 11 novembre 2008. Donc un débat rencontre autour d'Aimé Césaire avec Françoise Vergès. On va tout de suite entendre ça. Et le débat est animé par Chexo, qui est militant dans le domaine de l'éducation populaire dans la région bordelaise. Voilà, donc c'est lui qui anime le débat. C'est parti.
Nous recevons Françoise Vergès, qui est réunionnaise, elle est maître de conférence, directrice de maîtrise et de thèse de doctorat à l'Université de Londres. Alors, j'ai piqué ça sur Internet. Hein. Tu me dis, maintenant, comme on parlait de portail, maintenant j'y vais. Hein. Donc, tu es impliqué familialement dans le statut identitaire et départemental de l'Outre-mer, grand-père Raymond Vergès, qui a travaillé aux côtés d'Aimé Césaire à la départementalisation de 1946. Elle est vice-présidente du comité pour la mémoire de l'esclavage et rapporteuse générale, je dirais, pas rapporteuse générale du texte remis en 2004. Voilà. Nous allons parler d'Aimé Césaire. Aimé Césaire, pour nous, était un sage. Un sage qui nous a montré que quand on voulait, on pouvait, et qu'il fallait, comme disait Bob Marley, nous libérer de notre univers mental. Emancipate yourself from mental slavery. Et à travers ça, nous sommes positionnés comme des anticolonialistes qui ont vu effectivement la réalité de la colonisation, mais qui ne voulions pas que la colonisation nous aliène. Et c'était tout le mouvement du post-colonialisme. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on va commencer avec les entretiens que tu as eu avec Aimé Césaire. Pourquoi ? Et nous dire... une substance de ce que tu en as tiré.
Alors, comme tu disais, je pense que de toute façon, depuis quelques années, on est à un moment tournant, qu'il y a vraiment des enjeux très très importants autour de ce qu'on appelle les mémoires de la colonisation et les mémoires de l'esclavage, et que où on va réussir à faire passer des choses, où on va reculer. Mais on est vraiment à un moment tournant. Il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui ont changé. Et c'est vraiment la question de quel récit national la France va se donner. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire d'être français ? Qu'est-ce que c'est que l'identité française ? Qu'est-ce que c'est que le récit national français ? Ça, je pense que vraiment, c'est les questions en ce moment qui se posent et qui sont vraiment des gros enjeux. C'est vraiment... Donc, il y a ce moment tournant. Il y a évidemment l'élection de Barack Obama. Ce que je trouve très important dans cette élection, c'est outre, évidemment, l'incroyable symbole de voir des Noirs à la Maison-Blanche qui ne sont pas les domestiques... et des petites filles qui ne sont pas les filles de la cuisinière, ça je trouve ça absolument important. Je trouvais intéressant de voir comment en France, déjà, les politiques essayaient d'effacer l'importance de cette élection pour la France, c'est-à-dire en disant, ben justement, Obama a voulu une démocratie post-raciale, ben justement, on ne va quand même plus parler de ces choses-là, vous voyez bien, il faut aller de l'avant, il ne faut pas aller en arrière, sans évidemment voir que si Obama est là... Il est sur, comme on dit, sur les épaules de tous ceux qui sont morts avant lui et qui sont battus, de Frederick Douglass à Sojourner Truth, en passant évidemment par le mouvement des droits civiques et tous ces gens, et que sinon, sans eux, et qu'on ne va pas faire l'économie d'une confrontation au passé colonial et au passé esclavagiste de la France, tout d'un coup, pour passer à une démocratie post-raciale. Une démocratie post-raciale, ça se construit. Ça se construit, ça ne se décrète pas. Donc je pense qu'il y a ça. Il y a aussi, évidemment, comme tu le rappelais, toute cette agitation autour des lois mémorielles qui a commencé dès 2005 et qui se poursuit. Il y a cette mission parlementaire sur les lois mémorielles. Moi, j'ai été auditionnée. Je pourrais en parler. Enfin, je peux en parler surtout parce que c'était intéressant de voir les questions qui m'étaient posées et les réflexions qui m'étaient faites. Ça, c'était vraiment assez important. Il y a aussi toute cette question de la diversité, avec toutes ces idées d'un Grenelle de la diversité ou dans les états généraux de la diversité, peu importe comment on les appelle. Tout d'un coup, il y a quelque chose autour de la diversité en France qui, depuis quelque temps, mais enfin là, il serait question, puisque même l'épouse du président de la République est pour. Alors vraiment, les choses, c'est vraiment... Alors ça, c'est un contexte, on pourrait dire, national, puis il y a un contexte plus international, c'est-à-dire que quand même, il y a aussi toute une question autour de quels sont les récits de l'histoire du monde, même pas simplement de l'histoire française, mais de l'histoire du monde qui sont vraiment en jeu en ce moment. Et on voit bien que l'Europe et même l'Occident devient de plus en plus des provinces du monde. C'est vraiment c'est une provincialisation, il y a d'autres récits qui émergent et d'autres temporalités, c'est-à-dire tout ne commence pas avec l'histoire de l'Europe. Et ça, on le sent peut-être moins quand on est ici en France, mais ça se sent très très fort dès qu'on sort de l'Europe. Donc ça, c'est un petit peu le contexte aujourd'hui qui montre à quel point je pense que ces questions sont toujours importantes. Alors bon, pourquoi Césaire en 2004 ? Pourquoi je suis allée rencontrer Aimé Césaire ? Parce que je trouvais justement qu'on ne parlait plus de lui, qu'il avait complètement disparu de la conscience, on n'en parlait pas, c'était comme s'il était mort et enterré. Et je trouvais ça absolument injuste, parce que là, tout le monde parlait, je parle de la question noire, etc. Et puis je me disais, mais c'est insensé, il y a cet homme qui est là, et dont on ne parle pas. On parle, je veux dire, on ne s'intéresse même pas, on ne lisait plus du discours sur le colonialisme, on ne lisait plus Cahier d'un retour au pays natal, sans parler de tous les autres travaux. Alors je lui ai envoyé une petite lettre, en lui rappelant un peu, bon, moi je l'avais vu quand j'étais toute petite, mais surtout le rappelant qu'il avait travaillé avec Raymond Vergès, comme tu l'as dit. Et il m'a répondu tout de suite, et moi je me disais, bon, j'envoyais ça en juin, et puis je me dis, bon, ou en mai 2004, puis je me dis, bon, il va me répondre dans 6 mois. Il me répond pratiquement 15 jours après, il me dit, bon, quand est-ce que vous arrivez ? Alors j'ai dit, ben, moi je pensais, je sais pas, dans 6 mois, tout ça, etc., je vais arranger ça. Il me dit, mais pas du tout, vous arrivez dans 15 jours, moi je suis vieux, je peux mourir d'un moment à l'autre, il faut que vous veniez. Ah d'accord, bon, d'accord, alors je suis allée le voir, et c'est ce que je raconte, je le voyais tous les matins. Et parce qu'il se fatiguait quand même très rapidement, et donc tous les matins, il y avait des entretiens. Pour moi, l'enjeu, c'était de redonner à la voix de Césaire et à ce qu'il avait dit tout le poids, tout l'intérêt que ça pouvait avoir. C'est-à-dire, à la fois, c'est comme tout héritage, il y a des choses qu'on garde, il y a des choses qu'on ne garde pas. Je veux dire, quand on vous laisse un héritage, vous ne gardez pas tout. Je veux dire, sinon, la maison, on ne peut plus y vivre. Mais quand même, vous regardez tout ce qui est et vous retraversez tout cela et vous pouvez de nouveau mettre certaines choses de côté et garder d'autres pour que justement qu'il y ait de la transmission. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était voir l'héritage de Césaire dans cette chaîne de transmission. Donc qu'est-ce qu'il fallait dire ? Il m'intéressait aussi de faire parler Césaire sur les questions dont on débattait déjà, c'est-à-dire les mémoires de l'esclavage, la question des réparations, faut-il des réparations, pas des réparations ? Comment voyait-il la France ? Aujourd'hui, avec bon, toutes ces questions autour d'une France plurielle, pour utiliser ce terme, ou pluriculturelle, c'était des questions, je voulais le faire parler sur aujourd'hui, et pas simplement sur ce qu'il avait fait, sur son passé, est-ce qu'il était content, est-ce qu'il était vraiment, quand il avait rencontré... Ça avait été fait 1000 fois. Ce qui m'intéressait, c'était aujourd'hui, qu'est-ce que lui pensait ? Qu'est-ce qu'il pensait de la Martinique ? Qu'est-ce qu'il pensait de la France ? Et c'est ces questions, et je trouvais que ces réponses, justement, ce qui m'a aussi évidemment beaucoup touchée, c'est que ces réponses étaient très absolument pertinentes pour nous, c'est-à-dire qu'il était tout à fait conscient des limites auxquelles se heurtait la France, et qu'il disait, si la France continue comme ça, elle va dans une impasse. Je trouvais ça absolument important. Je trouvais aussi important ce qu'il disait sur les mémoires de l'esclavage, c'est-à-dire qu'il est à... Parce que, en tant que présidente, parce que je suis présidente maintenant, du comité pour la mémoire de l'esclavage, je me heurte aussi à tout un côté... comment dire, une fétichisation, je pourrais dire, du statut de victime. Et Césaire disait, mais ça nous est arrivé. Rien n'enlèvera ça. Il faut vivre avec ça et c'est tout. Et je trouvais ça, c'était extrêmement important pour moi de le faire dire. Il était, je veux dire, pour moi, ça nous est arrivé, c'est arrivé. Voilà, on ne va pas changer ça. Par contre, on va essayer de comprendre comment c'est arrivé. On va essayer de comprendre comment on a fabriqué du consentement. Ça dure 4 siècles. Comment les gens acceptent pendant 4 siècles, ça n'est pas un scandale. Ça prend très, très, très longtemps avant de devenir un scandale. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous apprend comment on accepte des choses, finalement. Alors que, par exemple, l'esclavage est quand même dénoncé très tôt. Il est très tôt dénoncé en Europe. Hein. En Europe, assez tôt, il y a des voix qui s'élèvent en disant que c'est de la barbarie. Ouais. Mais même avant, il y a un moine espagnol très, très, très tôt. Parce que les premiers esclaves... bateaux négriers portugais, on est vraiment à la fin du 15e siècle. Et déjà, il y a des voix, il y a des moines portugais, des moines espagnols qui s'élèvent en disant c'est absolument scandaleux. Bon. Donc le scandale, il est là, il est dit, mais il ne fait pas scandale. Et je trouve ça très, très intéressant, même pour nous, aujourd'hui, de comprendre comment quelque chose qui est dit, qu'on voit, on comprend que c'est scandaleux, et malgré tout, ça continue à se faire, ça continue à se passer. Je voulais aussi, pour moi, la question de l'esclavage, c'était très important de faire comprendre que ça n'avait pas été aberrant, que ce n'était pas un moment d'aberration incompréhensible, non. C'était tout à fait organisé, c'était un commerce, ça affecte le droit, ça affecte la littérature, ça affecte l'art, ça affecte l'économie, ça affecte le politique, la philosophie. C'est vraiment quelque chose, c'est aussi un moment transcontinental, c'est un des premiers grands commerces transcontinentaux, c'est une première globalisation, mais vraiment forte. C'est vraiment, on est là, et la résistance sera transcontinentale. On oublie trop souvent que la résistance sera transcontinentale. C'est un des premiers grands mouvements transcontinentaux, le mouvement contre l'esclavage. Et ça, je trouvais ça très, très important. Donc, je voulais aussi qu'on remette ça en avant. À travers tout ça, je voulais aussi qu'on souligne que les héritages de l'esclavage sont très complexes. Souffrance, exil, déportation et création de culture, qui sont aujourd'hui le patrimoine culturel de l'humanité tout entière. Le Brésil, aujourd'hui, ne serait pas ce qu'il est sans la présence africaine. Les États-Unis, pas de jazz, pas de blues, pas de littérature, pas de poésie, pas de Toni Morrison. Les Caraïbes, ben, ça serait autre chose. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas de culture, mais ça ne serait pas celle qu'on connaît. Il n'y aurait pas le reggae, il n'y aurait pas le biguine, il n'y aurait pas toute cette puissance, l'océan Indien. L'Europe ne serait pas ce qu'elle est. Je veux dire, les États-Unis, sans la présence africaine, aucun de nous n'irait aujourd'hui danser, parce que c'est quand même une immigration en majorité allemande, du côté blanc. Ben, moi, je ne nous vois pas tellement danser sur les danses des campagnes allemandes. Donc, on voit bien, c'est un patrimoine culturel mondial, ça appartient. Que l'on soit descendant d'esclaves ou pas descendant d'esclaves, descendant de négriers ou pas, cet événement a changé le monde profondément. Mais nous a légué tout cela. Et la résistance absolue du captif déjà, parce que l'abolitionniste, le premier abolitionniste, c'est le captif qui se rebelle. Ce n'est même pas avant même des révoltes sur le bateau. Donc toute cette longue histoire à la fois du consentement, qu'on fait consentir des peuples à cet horrible commerce, qu'on fait que quand même, malgré le scandale. Cette histoire de la transcontinentalité, de la résistance transcontinentale, je trouvais que c'était essentiel. Et Césaire, je trouvais, avait pointé ça du doigt. Il nous avait dit déjà que c'était absolument important, qu'il fallait qu'on prenne conscience de cela. Il nous avait aussi dit déjà que cette histoire donc, n'était pas aberrante ni délirante. Et justement, moi, je sais que très souvent, on me pose la question... Mais comment on peut expliquer ça? Mais c'est pas possible. Mais les gens, ils n'étaient pas scandalisés. Mais l'Europe, elle devient complètement addicted, je ne trouve plus mon mot là, au sucre. Mais c'est vraiment, elle ne peut pas s'en passer. Elle ne peut plus s'en passer. Et on se souvient que Saint-Domingue donne plus de la moitié du sucre que toute l'Europe consommait. Donc c'était l'importance de Saint-Domingue. Les gens ne peuvent pas se passer de sucre. Le sucre est un statut social, pas simplement du goût, mais c'est le statut social, parce que justement, on avait du sucre et pas du miel pour sucrer, donc on avait un statut plus important. Et on ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en passer, donc on veut minimiser les conditions dans lesquelles cette chose a été produite. C'est la fameuse phrase de Voltaire, est-ce qu'on connaît le prix du sang? Et ce que je veux expliquer par ça, qui revient à mon point précédent, c'est que nous aussi, je veux dire, comment on laisse faire des choses, tu vois? C'est-à-dire, moi, ce que j'explique aux gens, mais tous les jours, on va faire notre plein dans la voiture, mais chaque litre qu'on met, on ne se dit pas, bon, alors, ça fait combien d'Irakiens qui sont morts pour ça? Ça fait combien de kilomètres carrés en Angola ou Biafra qui sont pollués? Ça fait combien d'enfants en Indonésie? On ne se le dit pas. On fait notre plein, puis on part. On ne veut pas, on ne s'arrête pas de consommer de l'essence. Eh bien, on n'est pas différent des gens qui n'arrêtaient pas de consommer du sucre. C'est ça que je veux dire, c'est-à-dire, et c'est ça que Césaire pointe, c'est-à-dire la construction de tout ça. Donc ça, pour moi, Césaire était très contemporain. Donc et aujourd'hui, il continue à l'être par rapport à toutes ces questions que tu as pointées, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est aujourd'hui les enjeux autour des lois mémorielles, qu'est-ce que ça signifie qu'Obama soit élu, qu'est-ce que c'est la question de la diversité en France, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui un récit national français qui se transformerait. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui l'identité française? Quelle est cette identité française qui se veut blanche et chrétienne? Absolument. Qu'est-ce que c'est que ce récit national français qui est absolument enfermé dans les frontières hexagonales, qui n'arrive pas à inclure quelque chose en dehors? Mais aujourd'hui, d'ailleurs, quand on parle de la France des journaux, il y a la France et la Corse. Alors, on n'oublie pas la Corse parce que sinon, on aurait des ennuis. Bon, alors on la met. Mais les statistiques nationales n'incluent jamais les Outre-mer. Santé, éducation, travail, n'inclut jamais. C'est-à-dire, tu vois que la République, elle est construite, elle continue d'être construite en 2008 en excluant des groupes entiers.
On est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans les oreilles loin du front et on poursuit donc cette écoute de cette rencontre débat qui s'était tenue en novembre 2008 au Festival Origines Contrôlées, rencontre avec Françoise Vergès autour d'Aimé Césaire comme un hommage et montrer un petit peu l'actualité de sa pensée. Voilà, donc ça c'était c'est une rediffusion de deux émissions qu'on vous avait diffusées préalablement en 2009, en mars 2009.
Alors, je voudrais revenir sur cette position de Césaire. C'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Tu sais bien qu'aujourd'hui, on a aussi un courant de pensée qui veut faire croire que l'esclavage est arrivé partout. Et donc, les Noirs n'ont pas nécessairement à revendiquer à travers l'histoire, parce que les Grecs ont eu de l'esclavage chez eux, que tel ou tel peuple a connu l'esclavage. Et finalement, comme c'est arrivé, un jour ça passera. Et donc il n'y a pas nécessairement besoin de faire tout un... Voilà.
Je pense que c'est une question extrêmement importante parce que l'esclavage justement nous pose vraiment deux questions très profondes. Alors il y a la question historique et la question historique elle est très claire. Il y a de l'esclavage dans l'Antiquité, il y a de l'esclavage après. L'esclavage que les historiens appellent l'esclavage colonial qui commence au XVIe et se termine et est aboli au XIXe, c'est un esclavage qui va racialiser la servitude, qui va l'africaniser. Et tu n'as pas ça dans l'Antiquité. Tu n'as pas ça non plus après, même pendant le Moyen-Âge, tout ça. C'est-à-dire que les esclaves sont les prises de guerre, les femmes pour les harems, les choses comme ça. Mais peu importe leur origine, on ne cherche pas une origine particulière. Enfin bon, il y avait certaines femmes qui étaient plus prisées que d'autres pour les harems, certains hommes qui étaient plus prisés que d'autres pour servir dans l'armée. Mais on ne se sert pas simplement dans un endroit. Seul l'esclavage colonial va et dire la seule source, c'est l'Afrique, et les esclaves seront noirs. Et cette équivalence entre noirs et esclaves, elle se fait très fortement en Europe, et pour la France, elle se fait à tel point qu'à la fin du XVIIe, début du XVIIIe, noirs et esclaves deviennent synonymes dans les dictionnaires. C'est-à-dire que tu regardes les dictionnaires, tu vois noir, synonyme esclave. Tu regardes esclave, synonyme noir. Non. Il y a vraiment profondément une et puis alors l'explication biblique tout ça. Donc ça, l'esclavage colonial est très particulier pour ça. Il a aussi une chose, l'esclavage colonial, c'est qu'il produit un très fort déséquilibre de sexe parce que l'esclavage colonial a besoin surtout d'hommes et donc va prendre en Afrique surtout des hommes jeunes et donc produire ensuite de grands déséquilibres pour le continent démographique et des choses très fortes qui vont avoir un gros impact sur le développement de l'Afrique, puisque dans les plantations, on avait besoin d'hommes jeunes, surtout les plantations des îles à sucre, parce que le travail dans les champs de canne à sucre est très dur. Et c'est la différence avec l'esclavage en Afrique, aux États-Unis, pardon, où c'est le coton, et le coton peut être amassé par les femmes et les enfants. Les cannes à sucre, c'est des hommes jeunes, et les hommes, c'était entre 14 et 25 ans, c'était les plus prisés. Ça, c'est aussi quelque chose de très particulier, alors que l'esclavage antique, bon, on a besoin d'hommes pour l'armée ou pour les gladiateurs, on a besoin de femmes pour les harems. Donc sexué autant. Donc c'est africanisé, sexué, l'esclavage colonial, ça n'est pas autant. Bon, ça c'est une première, donc ça c'est, il y a une différence qui s'énonce. Ensuite, ta deuxième question. Oui, il y a une autre question qui est une question anthropologique et qui est une question très forte ou très politique, c'est que de tout temps, les hommes ont asservi d'autres hommes. Et là, on revient profondément à la question de l'exploitation. Et ça, c'est une question très, 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 très importante, parce que très souvent, dans la question de l'esclavage, ce qui est un peu évacué, c'est la question de l'exploitation de l'homme par l'homme, comme disait quelqu'un de très fameux. Et ça, je pense que ça... Et ça, ça reste aujourd'hui, puisqu'il y a des nouvelles formes de servitude. La question, c'est cette... vraiment, de oui. Il y a deux choses, et elles ne sont pas du tout... c'est pas parce que l'une arrive qu'on ne va pas examiner l'autre, tu vois.
Alors, toujours dans cette idée-là, que dire de ce qui aussi oppose aux partisans de la reconnaissance de la tête négrière comme crime contre l'humanité, cet argument qu'on n'a pas été les seuls, que les Africains aussi ont vendu leurs frères, que les Arabes aussi ont colonisé. Et voilà. Est-ce que dans les entretiens avec Césaire, ou même dans ta réflexion, cette affaire-là...
voilà, on dirait que vraiment c'est des réponses d'enfants de 4 ans. Je veux dire, moi, je suis stupéfaite quand je vois des gens adultes qui nous répondent ça. Les autres l'ont fait avant ou les autres ont commencé, mais c'est absolument absurde. Et ensuite, quand même, l'Europe, quand elle commence ce commerce, c'est aussi au moment où elle affirme au monde les principes d'universalisme, d'universalité des droits, liberté, égalité. La Déclaration des droits de l'homme, bon, enfin, c'est comme ça, et du citoyen, c'est « tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Pourquoi il y a ce « sauf quelques-uns » ? Donc ça, c'est quand même une contradiction très forte à l'intérieur de l'Europe, de la pensée européenne, très très forte, et ça, il faut quand même le soulever. Donc quand on nous dit « mais les autres l'ont fait », je vois même pas ce que ça signifie. Ensuite, il y a des formes d'esclavage, c'est quand même pas la même chose. L'esclavage colonial européen sera très particulier, et de toute façon, il mérite donc d'être étudié. Enfin, de me dire que, par exemple, les tsars, je vois même pas l'intérêt, quoi. Je veux dire... Bon, c'est comme de dire qu'il y a toujours eu des guerres, il y aura encore des guerres, donc ce n'est pas la peine de s'opposer aux guerres. Enfin, je veux dire, je ne sais pas, moi, je trouve que c'est quelque chose à laquelle je n'ose même pas répondre. Je conçois ça chez un enfant de 6 ans, mais pas chez...
Alors, comme quoi, dans nos intellectuels, il y a des enfants de 6 ans.
alors, je ne veux pas insulter les enfants de 6 ans. Hein.
Ouais. Alors... Dans tout ce que tu dis, il y a quand même cette nécessité peut-être de réécrire l'histoire, de la réécrire. Justement, comme on parle des enfants de 6 ans, nos enfants d'aujourd'hui sont demain effectivement ceux qui vont gérer ces pays et dans ces relations internationales. Et on sait très bien que, comme tu l'as dit, nègre c'est esclave, esclave c'est nègre. Comme mon fils qui vient, qui me raconte ce qu'on lui raconte à l'école. Cette nécessité de réécrire l'histoire, c'est quand même un de tes combats.
Oui, ça, c'était extrêmement important. Quand je suis revenue en France, en 1998, c'était le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans l'économie française. Le gouvernement était alors socialiste. J'étais stupéfaite parce qu'il n'y avait pas d'esclaves. On avait l'impression qu'il n'y avait pas d'esclaves. Il y avait que des abolitionnistes qui étaient évidemment français, qui étaient les grands guides, tout ça, qui avaient apporté la liberté à tous ces pauvres personnes. J'ai trouvé ça absolument scandaleux. Je me suis dit, mais c'est même pas possible qu'on soit en 98 et que ça continue comme ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu à intervenir là-dessus, sur cette question. Je trouvais que c'était pas croyable. Il fallait absolument réécrire, oui. Il fallait réécrire, faire entendre ces voix, faire entendre vraiment, et puis faire entendre l'incroyable brutalité. Tu sais que quand tu lis vraiment les témoignages des esclaves ou les récits des tribunaux, les images de brutalité qu'on a en Europe, c'est la Seconde Guerre mondiale, ce qui est le plus récent, avec l'incroyable brutalité des nazis. Et c'est pas du tout pour diminuer ça, parce que c'est effrayant. Mais la brutalité de l'esclavage est incroyable. La mortalité sur les bateaux, elle est de 10 à 12%. C'est-à-dire, même chez les marins européens, je veux dire, c'est une machine de mort. L'esclavage est une machine de mort. Et quand on te dit, ça ne devait pas être si dur, puisque de toute façon, comme c'était la force de travail, il fallait la protéger. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout, parce qu'il y avait un sentiment qu'on pouvait toujours aller en chercher. Donc il y avait un surplus constant et une offre constante. Et non, c'est une machine de mort. C'est d'une brutalité absolument effrayante. Et montrer l'incroyable barbarie, vraiment l'aspect barbare au cœur de ce commerce et au cœur de l'Europe à ce moment-là, et je pense extrêmement important. Et on peut l'enseigner, et on ne l'enseignait pas seulement dans l'histoire, on peut l'enseigner en littérature, faire lire les témoignages des esclaves.
Parce que je lis que donc, les colonies européennes, les textes de la Révolution haïtienne, la déclaration de Delgrès, les lettres, les romans, les poèmes constituent autant d'archives sur la pensée politique développée par les esclaves. Mais qui les étudie en dehors des spécialistes, qui connaît la culture et l'histoire des populations françaises.
Oui.
Ça, c'est toi qui
je trouve ça absolument. Si tu veux, par exemple, dans les grandes révolutions du 18e, révolution anglaise, américaine, française, la révolution haïtienne est constamment évacuée, oubliée. La révolution haïtienne est une des plus grandes révolutions du 18e. Elle est, même avant d'autres, elle affirme l'égalité de tous. Elle affirme justement, puisqu'elle est née de la révolte des esclaves, qu'il ne peut pas y avoir de différence raciale. Et cette, la révolution haïtienne, qui la connaît ? On ne connaît Haïti que par sa misère, ceci, cela, etc. On ne la connaît pas par ça, c'est-à-dire qu'elle a donné au monde. Et ça, c'est vrai. Alors, elle peut être enseignée en littérature, elle peut être enseignée dans les arts, elle peut être enseignée en géographie, elle peut être enseignée, évidemment, dans le droit. Le code noir ne fait pas partie des textes juridiques qu'on étudie. Comme si il n'était pas un texte juridique. Mais quand on étudie le droit, on devrait étudier le code noir. C'est un texte juridique qui met en place l'exclusion des personnes sur la... et qui met très clairement et qui régit toute la vie des personnes esclaves. C'est un des grands codes de l'exclusion. Dans l'enseignement, il y a un petit peu, il y a quand même. Bon, alors, si on regarde les trois grandes puissances esclavagistes, hein, les plus grandes, enfin les Hollandais aussi ont été quand même pas mal. Mais enfin, si on regarde Angleterre, France et États-Unis, la France est le plus en retard dans l'enseignement. Vous trouvez aux États-Unis, vous trouvez par exemple, il y a le mois de février qui est le Black History Month, et il y a beaucoup de choses, même pour les enfants, des livres pour les enfants, il y a des tas de choses qui se font. Hein, je veux dire, il y a aussi pas mal de choses à la télévision, il y a beaucoup plus de documentaires. Bon, c'est pas complètement gagné, mais quand même. Et vous avez aussi à l'université, il y a énormément de thèses, il y a énormément de travaux de recherche, il y a des départements entiers, des laboratoires entiers de recherche depuis des années. Hein. Donc si vous voulez, si vous voulez trouver quelque chose, vous avez des étagères entières. L'Angleterre aussi, la France est beaucoup plus en retard. Donc dans ce cas, si on compare les trois, la France commence un petit peu à rattraper sous l'impulsion du comité et notamment pour la mémoire de l'esclavage. Au début, quand on a commencé, on a été installé, on avait un prix de thèse. Il y avait une thèse dans l'année. Donc il y avait une thèse. Bon, bah, elle a eu le prix parce que quand même, il fallait bien la récompenser. Aujourd'hui, on en a quatre. Donc en 4 ans, parce qu'une thèse quand même, il faut du temps hein, pour l'écrire tout ça, mais on voit déjà, donc ça a été quand même multiplié aussitôt. Hein. Et je pense que les choses vont continuer. Il y a des nouvelles, il y a des thèses, il y a des tas de jeunes qui se mettent à réétudier l'esclavage et à aborder des choses qui étaient beaucoup moins abordées, la place des femmes. Alors là, c'est les Français, l'histoire des femmes, ils connaissent à peine encore. Je veux dire déjà en général, mais alors celle des femmes esclaves, ça n'existe même pas. On commence à en parler, ce qu'on appelle l'histoire culturelle aussi, de voir comment les langues se sont formées, les musiques ont été créées, quels étaient les rites que les esclaves faisaient pour la naissance et la mort. Tous les êtres humains ont des rites de naissance et de mort, donc ils en avaient certainement. Qu'est-ce qu'ils étaient ? Les différences aussi, parce que ça dure, comme je vous dis, ça dure 4 siècles, donc les choses changent hein, de siècle en siècle. Comment ça se passe dans les différents endroits, que ce soit les colonies hollandaises, anglaises ou françaises. Donc il y a des travaux qui commencent et je pense que dans 10 ans, la France aura rattrapé son retard.
Tu écris donc toujours dans ce livre, il s'agit aussi de promouvoir des mémoires que l'historiographie savante a marginalisées, sinon occultées. La mémoire est devenue à juste titre objet de vigilance, mais elle risque d'être muséifiée, sacralisée, judiciarisée, banalisée et instrumentalisée. Apprendre l'histoire, enseigner l'histoire, oui, mais que faire de ces lieux de mémoire ? Parce qu'il y a quand même de plus en plus cette demande d'avoir des lieux de mémoire pour se souvenir, et en même temps, à contrario, tout un mouvement qui liquide le courant de la reconnaissance. Donc, ta position autour de
oui,
ça.
Oui, en ce moment, en France, il y a une vraie campagne contre les lois mémorielles, mais surtout contre une loi, quand même, disons-le, c'est contre la loi Taubira. Il y a une vraie campagne contre la Taubira. Aimé César, lui, il était... alors, je lui avais demandé ce qu'il pensait de la loi. Il trouvait que c'était très bien. Lui, il était il était contre les réparations. Et il était absolument contre les réparations.
Il c'était quoi son...
Parce qu'il trouve que c'est irréparable. Que de toute façon, rien. Et qu'il avait ça. Et puis, il avait peur d'une deuxième... Il avait aussi peur d'une deuxième chose. C'est qu'il disait, mais alors, les autres vont dire, alors, combien tu veux ? Tu veux ça ? Bon, top là. Et puis après, on n'en parle plus. Alors qu'il trouvait que la question, c'était d'en parler, de faire connaître cette histoire, et que ce n'était pas la question d'avoir de donner, je ne sais pas, quelques sous aux gens. Donc, ça, il y a ça. La question des lieux de mémoire, il y a deux genres de lieux de mémoire. Il y a le lieu de mémoire mémorial, quoi, celui où on vient de se recueillir. Et ça, je pense qu'il faut. Tous les gens ont besoin d'un endroit de recueil. Tu sais, moi, par exemple, ce qui me frappe toujours à La Réunion, c'est qu'en 1948... quand il y a l'abolition de l'esclavage, il y a 60 000 esclaves sur 100 000 habitants. Personne ne va recueillir leurs témoignages, ils vont disparaître sans sépulture, sans rien. Et ça, c'est pour moi, c'est un vide qui existe, il faut leur donner une place. Il faut donner une place, je veux dire, il faut que les gens puissent se reposer quelque part. C'est un geste symbolique de toutes les sociétés humaines, c'est de la culture, c'est de la culture au sens fort. Donc il y a ça. Et puis après, il y a ce qu'on appelle des centres d'interprétation, c'est-à-dire des endroits de ressources où les gens peuvent trouver de la documentation et de la ressource. Et je pense que les deux choses sont nécessaires. Le lieu de recueillement, où tu ne peux pas trouver de l'information. Un lieu de recueillement, c'est un lieu de recueillement. Je veux dire, tu vas te recueillir en hommage à toutes ces femmes et ces hommes disparus sans sépulture, sans nom, qu'on avait arraché à leur terre, qui ont disparu. On ne connaît même pas leur nom. Et je trouve ça absolument, c'est effroyable. Il y a ce fameux poème de Derek Walcott qui dit « La mer est histoire » et que tous les coraux sont comme les os blanchis des esclaves qui ont formé toutes ces barrières de coraux autour des îles, des choses. C'est quand même une histoire absolument effrayante. Non, il faut ça. Et à côté, il faut des lieux de ressources et de documentation. Et ça, il faut que ça reste vivant. Il ne faut pas que ça devienne muséifié et figé. Il faut qu'on continue à discuter, qu'on puisse continuer à parler, et notamment d'un des grands choses qu'a donné l'esclavage, c'est le racisme. Et ça, Césaire, quand il dit « nègre, je suis nègre, je resterai », il le dit. Il lui dit « on me disait ça, le nègre », il lui répondait « le nègre t'emmerde ». Le nègre vous emmerde, madame. Et la question, c'est donc quand il dit ça, « nègre, je suis nègre, vous m'avez fait nègre », eh bien, j'en serais fière. C'est une histoire que je porte. Il n'y a pas de raison que j'en sois honteux. Et ça, cette dimension, c'est-à-dire que Césaire quand même voit aussi et qu'il propose, c'est que la traite et l'esclavage ont bouleversé donc le monde, comme j'ai dit, mais ont aussi créé ce qu'on appelle aujourd'hui une diaspora noire, pour utiliser ce terme. Mais c'est-à-dire une présence africaine qui dépasse les limites du continent, et qui fait qu'aujourd'hui, cette présence africaine, elle est partout et que Césaire l'affirme et l'a dit. Et dit sans, que la présence africaine fait partie de l'humanité. Et que l'humanisme européen a exclu de sa pensée toute une partie des gens et qu'il faut réintroduire. C'est ce qu'il appelle, de ses voeux quand il parle de nouvel humanisme. C'est-à-dire l'humanisme européen s'était fait sur des principes et des idées mais dans la réalité avait exclu, et comment aujourd'hui imaginer un nouvel humanisme pour une nouvelle humanité.
Donc vous dites qu'on a un Césaire qui revendique la négritude dans une dimension de lutte, de combat, et un Césaire plus tard qui forge ce que tu appelles un nouvel humanisme. Qui
prend oui, mais même sa négritude, il dit, ça ne sera jamais une cathédrale. Tu sais, dans le cahier d'un retour au pays natal, il dit, ma négritude n'est pas une cathédrale. Pour lui, il n'est vraiment... C'est très fort, parce que quand j'ai demandé, même en 2004, j'ai dit, et alors si vous deviez donner des conseils de lecture, il dit, tout lire, absolument tout lire. Rien ne doit vous être interdit. C'est pas parce que vous êtes noir que vous devez lire des auteurs noirs. Lisez tout, prenez tout. La culture vous appartient, le monde vous appartient. Et ça, si tu veux, je pense que donc pour Césaire, être nègre, puisque c'était ce terme qu'il voulait utiliser, c'était faire partie du monde. Mais d'assumer ce qu'on avait fait de lui, mais en faisant quelque chose de fort et de positif, et non pas de négatif. Il ne voulait pas être enfermé, il disait là-dedans. Donc on l'avait fait nègre, nègre il serait, mais nègre ne signifiait pas qu'il n'appartenait entièrement à ce monde.
Et je pense que Césaire a donc bien fait d'employer le mot de négritude, car s'agissant de nègres, nous sommes des hommes vivants, des hommes concrets. Donc la négritude, c'est d'une façon générale l'ensemble des qualités, des vertus du monde noir, des valeurs comme on dit aujourd'hui.
Je crois que le président a absolument raison quand il parle de la situation concrète du noir. Il est clair que il y a des différences entre l'approche africaine et l'approche antillaise de la négritude. Comment en être surpris? c'est que les situations historiques et sociologiques et politiques dans lesquelles nous sommes sont extrêmement différentes. Par exemple, il est clair que ici, nous sommes dans le concret, incontestablement. Nous sommes aux prises avec des difficultés immédiates, concrètes. Je crois qu'à l'heure actuelle, pour nous, il s'agit de peuples qui sont à la limite de l'asphyxie. Et vous connaissez le background, l'arrière-plan historique de ce pays, des Antillais. Quand nous disons négritude, nous insistons tout particulièrement sur la notion d'identité. Et enfin, c'est pour nous l'affirmation d'une solidarité, parce que nous voulons le rassemblement, la fraternité de tous les peuples noirs, et qu'ils puissent former une communauté vivante. Alors qu'à l'heure actuelle, nous assistons à un compartimentage qui nous paraît extrêmement préjudiciable, et aux uns et aux autres. Pour Césaire, la négritude, c'est quelque chose d'actif. Il ne faut pas être agi, il faut agir. Les Allemands disent que la négritude, c'est le « Negersein ». Le « Negersein » met un nègre actif, ce n'est pas un « Dasein », c'est un « Sein » actif. Césaire a tout mis dans un seul mot, le mot « négritude » qu'il a employé comme un marteau pilon. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'ici, j'ai été très prudent. Je crois que c'est une grande chose, c'est une notion importante, que celle qui permettra à un Sénégalais, à un Dahoméen, à un Malien ou à un Congolais de s'asseoir autour d'une même table et de se sentir comme les membres d'une même famille. Eh bien, c'est la conception de la négritude qui le permet.
Et à moi, mes danses de mauvais nègres. À moi, mes danses, la danse brise carcan, la danse saute prison, la danse... Il est beau et bon et légitime d'être nègre. À moi mes danses. Et saute le soleil sur la raquette de mes mains. Mais non, l'inégal soleil ne me suffit plus. Enroule-toi, vent, autour de ma nouvelle croissance. Pose-toi sur mes doigts mesurés. Je te livre ma conscience et son rythme de chair. Je te livre les feux où brasille ma faiblesse. Je te livre le chingant, je te livre le marais, je te livre l'intouriste du circuit triangulaire. Dévore le vent, je te livre mes paroles abruptes. Dévore et enroule-toi, et t'enroulant, embrasse-moi d'un plus vaste frisson. Embrasse-moi jusqu'où nous furieux, embrasse. Et nous ayant également mordu jusqu'au sang de notre sang. Mordu. Embrasse. Ma pureté ne se lie qu'à ta pureté.
À propos des réparations, je suis juriste. Réparation signifie, bien entendu, essayer de compenser un dommage qui a été causé. Et je suis plutôt d'accord avec Césaire. Je pense que c'est inestimable. C'est inestimable. Et d'autre part, à supposer qu'on puisse l'estimer, qui en sera le créancier? À qui on va verser cela? Et puis, il ne faut pas non plus se voiler la face. Je pense que chez nous, malheureusement, toute indemnité qui serait versée risque de revenir dans des banques occidentales. Voilà. Et je pense qu'on ne peut pas clouer le bec à ceux qui se défendent en leur disant voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais dit.
Il était profondément, moi je suis d'accord avec vous, parce que je pense que la réparation, elle est historique et politique, c'est-à-dire historique au sens. Les histoires doivent changer, hein, les récits doivent changer. Et ça, par exemple, pour l'Europe, c'est absolument incontournable. L'Europe doit changer son récit, doit changer aussi cette manière de se voir en guide du monde, en inventeur de la démocratie, en inventeur des grands principes universels, et qu'elle doit voir le crime qu'elle a en son cœur et qu'elle commence au XVIe siècle avec ça. Et ça, c'était absolument, pour moi, ça fait partie de la réparation, au sens d'une réparation historique. Ça doit se dire, ça doit être dit, ça doit être décortiqué. Ensuite, je pense que c'est des luttes politiques. Moi, je pense que c'est des luttes politiques pour changer les choses, pour changer les manières de faire. Et ça doit se faire autant en Afrique qu'en Europe, qu'aux Amériques. Voilà. Il faut sortir aussi, justement, nous, de nos propres frontières et reconstruire un peu, par exemple, ce que les esclaves, quand vous avez Frédéric Douglas qui parle aux gens aussi en Angleterre, ailleurs, reconstruire aussi ces mouvements transcontinentaux, des victimes, pourrait-on dire, des régimes prédateurs, de l'économie prédatrice. Et je pense que là, on ne peut pas, parce que si on continue nous-mêmes à dire l'Afrique, mais l'Afrique, c'est comme si c'était un tas. Vous voyez, c'était une chose... Mais c'est un immense continent avec des milliers de cultures et de langues, avec des gens extrêmement différents les uns des autres. Et il faut nous-mêmes que nous soyons capables de différencier qui nous sommes pour que justement on ne nous mette pas dans cette espèce de tas. Sinon, on a le discours de Dakar. Et la réponse au discours de Dakar, ce n'est pas simplement de dire l'Afrique, ce n'est pas ça. Mais c'est de dire, moi, je ne supporte même plus qu'on parle de l'Afrique comme ça. C'est pas possible, c'est d'une diversité, d'une richesse. Il faut aussi redire ça. La différence incroyable que vous avez entre l'Afrique du Sud, le Mozambique et le Kenya. Ça n'a strictement rien à voir. En paysage, en culture, en langue, en histoire, tout. Et redonner aussi la complexité, la richesse, la diversité de ce continent. On ne confond pas un Finlandais et un Espagnol. Alors, je veux dire qu'ils sont quand même peut-être presque plus proches que, justement, proche au sens de culture, hein, que des gens. Et ça, c'est une chose, je pense aussi, qui fait partie, aujourd'hui, de la déconstruction du monde tel qu'on nous l'a mis dans la tête, des cartes mentales qu'on nous a mis dans la tête, l'Afrique. Mais je ne sais même pas de quoi on parle, moi. Et ça, je pense, c'est la même chose, c'est de dire, et c'est cette manière aussi de ce que les historiens, les indiens parlent en disant il faut provincialiser l'Europe, c'est-à-dire la remettre à sa place. Elle est une parmi d'autres, c'est tout. Elle est une région du monde parmi d'autres. C'est pas non plus de lui dire qu'elle n'existe plus, sinon elle va avoir une dépression, mais de lui dire bon qu'elle, il faut qu'elle accepte, elle accepte de l'incroyable complexité. Et la richesse, juste un tout petit mot, nous, je travaille là, un projet, un grand musée aérien, mais le fait, par exemple, de resituer l'histoire de l'océan Indien et de la sortir de la temporalité européenne et de dire qu'au 10e siècle, les flottes chinoises sont arrivées en Afrique, qu'il y avait des routes commerciales, qu'il y avait de grandes villes, qu'il y avait des routes... Quand on fait, par exemple, la liste des produits échangés, produits manufacturés et produits premiers. Là. C'est incroyable. Ils connaissaient tout, la porcelaine, tout, ça circulait. Et ça, on voit qu'il y avait des routes sud-sud, il y a eu des échanges sud-sud, et on change notre cartographie du monde. Il n'y a pas que nord-sud, là. Parce que quand on continue comme ça, on continue à nourrir le narcissisme du nord. Mais il y a des tas de gens... les échanges sud-sud ont toujours existé et continuent à exister aujourd'hui. Ils sont là, les diasporas indiennes en Afrique, les diasporas africaines en Inde qui commencent au XIVe siècle. Il y a de grandes diasporas africaines en Inde. Et on parle, je veux dire, ça aussi, ça, de transformer nos cartes mentales, de sortir de cette temporalité que nous a imposée l'Europe et tout commence avec elle et tout finit avec elle, je pense que ça aussi, c'est un des enjeux de la décolonisation de nos esprits.
Vous êtes bien dans les oreilles loin du front, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, et on continue d'entendre donc cette rencontre, débat avec Françoise Vergès autour d'Aimé Césaire, donc une rencontre, débat qui avait lieu au Festival Origines Contrôlées à Toulouse le 11 novembre 2008. Et pour préciser également que vous avez entendu des extraits d'une archive qui était une émission de télévision coproduite par l'INA et le CNRS qui date de 1977, qui était consacrée à Aimé Césaire. Donc on a préalablement entendu une conversation entre Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor autour du concept de négritude. Et puis des extraits également d'une pièce de Aimé Césaire, donc La tragédie du roi Christophe, mise en scène par le Théâtre national sénégalais. Et on poursuit donc cette écoute.
Ah, il est temps de mettre à la raison ces nègres qui croient que la révolution, ça consiste à prendre la place des blancs, mais continuer en lieu et place. Je veux dire, sur le dos des nègres, à faire le blanc.
Et puis, il faut vraiment ne pas oublier que c'est une lutte qui a été très, très dure. C'est un courage. Les abolitionnistes ont été extrêmement courageux. Ils allaient vraiment à l'encontre de toutes les idées. Et il faut donc aussi se dire, il faut se souvenir de ce courage, du risque qu'on prend. C'est des gens, que ce soit blancs, qu'ils étaient blancs ou noirs, mais certains, on ne leur parlait plus, ils perdaient leurs amis, ils perdaient leur travail. Il ne faut pas du tout s'imaginer que c'était tous des bourgeois et qu'ils étaient tranquilles. Il y a eu beaucoup, ils étaient attaqués, certains étaient lynchés, ils perdaient tout, ils étaient obligés de s'enfuir. C'était vraiment une lutte très très dure, une des grandes luttes, et moi je trouve ça dommage justement qu'on ne se souvienne pas de l'esprit qui a animé ces gens-là, qui ont été d'un courage extraordinaire. Et ce que je trouve, c'est justement de redonner cette dimension transcontinentale, cette dimension. Les femmes sont extrêmement importantes dans cette lutte. Les femmes, qu'elles soient blanches ou noires, elles vont vraiment, vraiment se positionner. Mais une chose aussi qui est intéressante quand même aussi, c'est que l'esclavage colonial a inventé, enfin a créé ce qu'on appelle la ligne de couleur. Et cette ligne de couleur, elle a traversé les mouvements progressistes. Les mouvements réactionnaires, laissons-les de côté, d'accord. Mais les mouvements progressistes, quand même. C'est-à-dire qu'on parle des Noirs, mais moi je dis toujours, il faut s'intéresser à comment on a fabriqué le blanc. Parce que le noir, après tout, tout le monde en parle, mais le blanc, c'est quoi? Pourquoi les gens se voient comme blancs? Qu'est-ce qui fait qu'on se voit comme blanc? Et qu'est-ce qui fait? Vous avez ce livre intéressant qui dit comment on a fait des Irlandais des blancs. Les Irlandais, quand ils arrivent aux États-Unis, on les jette dans les ghettos où il y a les Noirs. C'était à la fin de la guerre civile, donc les Noirs étaient montés du sud dans les villes du nord, et il y avait déjà les ghettos. Ils sont très maltraités, et on mettait pas de chiens, pas d'Irlandais. Par exemple, no dogs, no Irish. Et par exemple, quand il y avait du travail, on disait no Irish, no need to apply. C'est pas la peine de demander. Les Irlandais avaient une très très mauvaise réputation. Et à un moment donné, il commence à avoir une solidarité entre les Irlandais et les Noirs, contre la classe possédante, pour parler ainsi. Et alors là, danger absolu. Et du coup, on va faire des Irlandais des Blancs, et qu'ils restent exploités, et complètement exploités, mais ils ont quand même ce petit quelque chose qui les fait un petit peu plus que les Noirs. Et les premiers pogroms, mais contre les Noirs, mais je trouve plus le mot, ça sera fait dans les ghettos, c'est les Irlandais qui le lanceront. Et en France, en 1848, Hubertine Auclert, grande féministe devant l'éternel, grande républicaine, opposante à Napoléon III, partisan évidemment du suffrage des femmes, tout ça. 1848, abolition de l'esclavage, les hommes affranchis reçoivent le droit de vote. Comme le 13e amendement fera qu'on donne le droit de vote aux Noirs américains. Eh bien, elle dit, les femmes sont moins que des nègres, et elle écrit tout un texte en disant, comment peut-on donner le droit de vote à des Noirs qui ne sont même pas civilisés, à des nègres, alors que nous, femmes blanches, sommes civilisées. Et ce texte, vous ne le voyez dans aucune histoire du féminisme français, et on n'en parle pas. Et Hubertine Auclert, il y a encore un livre récemment qui est sorti sur elle, parce que c'est une figure très importante, et c'est une femme très courageuse, très sincère, etc. Mais quand on est arrivé là, la ligne de couleur s'est mise en place, et elle s'est dit, ah non, c'est pas possible, alors non. Et on sent la force de cette frontière, même dans les mouvements. Et on le sait, dans le mouvement ouvrier, tu parlais par exemple, les mouvements ouvriers, la difficulté qu'ont eu les personnes pour faire connaître. Donc on voit... Et ça, il faut aussi se souvenir de ça. Se souvenir de ça, à quel point... Et ça s'est passé aussi après aux États-Unis, plus tard, dans le mouvement féministe, il y a eu aussi une séparation. Parce que les féministes blanches n'ont pas supporté que les hommes noirs aient le droit de vote, et les femmes noires se sont alliées aux hommes noirs et ont dit aux féministes blanches c'est insupportable. Et ça, c'est une séparation dont Angela Davis parlera.
J'aimerais quand même saluer Olympe de Gouges, qui était une grande féministe française, mais qui a écrit un texte sur l'esclavage qui s'appelle Zamor et Mirza, où elle dénonce assez fort justement ce qu'on fait à ses amis noirs. Elle a, voilà.
Non, mais il y a eu des féministes, il y a eu des syndicalistes, il y a eu des hommes politiques qui se sont battus. Ce que je veux dire, c'est que quand même, l'esclavage colonial crée ce qu'on appelle la ligne de couleur, et que ça va traverser la citoyenneté, que ça va traverser le féminisme, que ça va traverser quand même le syndicalisme. C'est-à-dire même dans des mouvements dont on aurait pu espérer que justement ils auraient porté des idées progressistes, quelque chose se met en place. Et on le voit dans les mouvements ouvriers aussi. C'est nous qui n'empêchons pas qu'il y ait des syndicalistes, absolument, qu'il y ait des féministes, et qu'il y ait des hommes politiques et des femmes politiques qui soient.
Cela n'empêche pas effectivement la solidarité, parce qu'il y a une thèse là qui est en train d'être préparée d'ailleurs sur Bordeaux, où la fille essaie de montrer, l'étudiante essaie de montrer l'histoire du patchwork. Et ça, la thèse qu'elle défend, c'est que le patchwork a été le type de langage créé par les femmes pour aider justement à la fuite des esclaves. Donc, un tissu qui était fait avec des codes, et on pouvait savoir quand est-ce que le train pouvait passer, là où on pouvait passer, là où les lieux qu'il fallait éviter, les personnes qui pouvaient nous être d'une certaine solidarité, et apparemment, ce serait la naissance du patchwork entre des femmes blanches et des femmes noires. Donc, il n'empêche qu'il y a eu cette solidarité, mais il faut le dire, cette ligne, elle a quand même traversé, jusque dans le discours d'ailleurs de Jules Ferry sur les Noirs.
Non, mais de toute façon, c'est ça les luttes. C'est pour ça que je trouve qu'il faut. C'est pour ça que c'est une histoire extrêmement intéressante et que l'histoire de la traite et de l'esclavage est là, c'est ce que Césaire soulignait. Elle nous apprend beaucoup de choses. Elle nous apprend des choses contemporaines sur comment lutter, avec qui, comment. Je veux dire, elle nous apprend des choses. Elle nous apprend qu'on va trouver des personnes auxquelles on ne s'attendait pas, qui vont tout d'un coup se mettre à risquer, c'est comme on a vu parfois avec les réseaux aujourd'hui de parents qui s'opposent à l'expulsion des parents d'élèves. On le voit, je veux dire, donc ça, ça révèle les vrais engagements. C'était vraiment des luttes qui mettaient vraiment des choses en cause. L'ordre établi, pour parler comme ça. Je veux dire, l'ordre établi disait que voilà, c'était comme ça, et c'était comme ça pour les siècles et les siècles à venir, qu'il n'y avait pas de raison de changer. Si vous voulez, que vraiment, fortement, il y a une tradition française chez les historiens où l'histoire de France, c'est l'histoire de la France. Et voilà, c'est de la France, les rois, les reines, la République. Hein, alors on a les rois, les reines, la Révolution, la République, Vichy maintenant, parce que ça fait quand même, enfin on en parle, la Première Guerre, la Deuxième Guerre. Mais regardez quand même la bataille pour ce film indigène. Et il a mis 5 ans à le faire, tout ça, etc. On a révélé les questions, c'était quoi, il y a 2 ans, 3 ans, alors que bon. Donc on voit, il y a une résistance. La France est un des pays, enfin bon, je vous dis ça, c'est parce que j'enseigne ailleurs, tout ça, le plus replié sur un tout petit territoire qui est le territoire de sa grandeur et de son identité. Et ça, c'est une mentalité. Je pense que les jeunes générations vont être différentes. Simplement, ces gens sont des mandarins, c'est des gens des positions de pouvoir encore beaucoup aujourd'hui. Dès qu'ils écrivent, ils sont dans les journaux, sur les médias, dans les télés, donc c'est eux qu'on entend. Mais les choses changent quand même, je vous dis, il y a des thèses, de plus en plus, il y a des jeunes historiens. Et vraiment, il y a tout un mouvement. Mais eux, pour l'instant, ils s'y opposent profondément. Ils n'ont pas supporté la loi Taubira. Ils ne l'ont pas supportée. Ils ne supportent absolument pas. Alors, l'histoire du crime contre l'humanité, ils disent que c'est anachronique complètement de dire ça. Alors, quand on leur montre qu'il y avait il y avait des formules qui sont très proches de ça déjà chez Condorcet et Voltaire, ils n'écoutent pas. Enfin, ils ne veulent pas savoir. Il y a un point, traite négrière, esclavage, colonie, c'est encore un point aveugle dans la pensée française. Moi, j'avais vu, je le dis enfin, rapidement, là, parce que dans le dictionnaire de philosophie politique, grand dictionnaire, des gens très bien de Sciences Po, le terme est, à l'article esclavage, on vous dit ça ne concerne plus la philosophie, ça a concerné, c'était une question pour les philosophes de l'Antiquité, aujourd'hui ça ne nous concerne plus. Bon, ah bon, d'accord, ok, d'accord. Bon, colonie, ça n'existe pas. C'est-à-dire ça n'existe pas, la colonie n'existe pas dans la pensée française. Dans la pensée, les philosophes qui vous parlent de citoyenneté sans fin, de république, il n'y a pas de colonie. Il n'y a pas non plus le discours de la race, comment le discours de la race a façonné quand même la pensée française. La mission civilisatrice, c'est quoi ? Rien, silence, radio. C'est quand même très, 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 très fort. C'est très fort. Et quand il y a eu le projet de Maison de l'Histoire, et on nous avait envoyé au comité le premier rapport, il n'y avait pas un mot sur traite négrière, esclavage, colonie. J'ai quand même envoyé une lettre au rapporteur en lui disant, mais écoutez, vous avez l'intention, là, vous n'en avez pas du tout en parler, là, c'est Maison de l'Histoire de France, vous n'avez pas en parlé. Ah, j'avais oublié. Bon, d'accord, ben, je ne sais pas, enfin, peut-être que quand même. Mais moi, je l'ai souvent dit, les lieux de mémoire de Nora, il n'y a pas un chapitre là-dessus. Et même l'histoire des femmes de Georges Duby et Michel Perrault, qu'on ne peut pas soupçonner du tout d'être des réactionnaires, il n'y a pas un chapitre sur la femme esclave ou la femme colonisée. C'est donc il y a ceux qui ne veulent pas et ceux et le fait que c'est un point aveugle dans la pensée française.
Le colonialisme, l'esclavage, le colonialisme, il y a eu pendant toute cette période un va-et-vient entre les fonctionnaires en France et dans les colonies. Je pense bien que vous avez des exemples où des fonctionnaires ayant vécu un certain temps dans les colonies sont revenus en France et que font-ils ? Ils mettent en application ce qui se faisait là-bas. Donc, ce va-et-vient-là, ce n'est pas innocent. On obtient ici ce qu'on a semé là-bas sans s'en rendre compte. Bien. Une question, une dernière question. Moi, je pense que le débat sur les réparations est lié à celui qui concerne la repentance. Le refus de repentance. Du fait même que personne n'a demandé à qui que ce soit de se repentir. Voilà. Quel est votre avis là-dessus ?
Oui, je pense, sur votre premier point, je pense que c'est très très important de signaler effectivement ce va-et-vient entre colonie et métropole. C'est absolument fondamental. Vous savez que les premiers camps de concentration, ils sont testés par les Anglais sur les Bourses en Afrique du Sud. C'est le premier moment où on a vraiment avec des barbelés autour, etc. Et on pousse les gens à la famine et on va les exterminer. Bon, même si les Bourses après deviennent des horribles personnages, c'est pas une raison. Bon, et c'est vrai que ça, beaucoup de choses seront testées, beaucoup de choses. Et aujourd'hui encore, des choses sont testées. Aujourd'hui encore, hein. Par exemple à Mayotte, des politiques de rejet des illégaux sont testées pour voir comment ça va se passer, pour voir comment on va faire ici. Donc ça, ça continue. Donc vous avez tout à fait raison. Il y a vraiment, et Césaire le dit très très bien, c'est finalement, ça reviendra. Et les projets du Lebensraum d'Hitler, il a lu les projets coloniaux. Simplement, lui, il choisit vers la Russie parce qu'il trouve que c'est pas plus mal. Et donc, il choisit pas d'aller à l'étranger. Enfin, il choisit d'être sur le terrain européen. Alors, la question de la repentance, c'est absolument... le mot apparaît déjà dans les débats en 98. Et c'est une formidable manœuvre de propagande. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le mot, maintenant, vous ne pouvez pas aller dans un débat à la radio-télévision si on vous dit pas, mais alors, madame, vous voulez la repentance ? On n'a jamais prononcé ce terme, personne n'a jamais prononcé ce terme, mais ça y est, c'est passé. C'est passé. Alors vous perdez 10 minutes à expliquer que ce n'est pas ça que vous voulez, que c'est ça. Pendant ce temps-là, vous ne dites pas ce que vous avez à dire, et les autres vous disent pourquoi vous voulez la repentance. Mais vous dites, mais on n'en veut pas, et ça leur permet, un, effectivement, de ne pas parler de ce dont il est question, des discriminations, des inégalités, du racisme. Mais on leur dit, mais nous, on veut pas, je veux dire, on se repent devant Dieu, alors nous, ça ne nous regarde pas. Hein, ça, si vous voulez aller vous repentir, repentez-vous. Mais c'est quand même pas ça la question. Mais ça, c'est une formidable manœuvre de propagande qui a quand même assez réussi. Parce que le terme, il est passé maintenant dans le vocabulaire. Il n'y a pas un article, vous ne voyez pas ça. Je veux dire, c'est une très très bonne. Je veux dire, ça, et il faudra que nous, on développe la contre-propagande, pour parler comme ça, parce qu'ils ont vraiment réussi à faire passer. Et ça, je pense que c'est vraiment. Ça, c'est un gros enjeu. J'avais même, bon, ça m'énervait tellement que je me suis dit, je vais écrire un petit pamphlet en disant contre la repentance parce que j'en ai par-dessus la tête. Mais parce que vraiment, c'est insupportable. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous en, excusez-moi, le chewing-gum à votre qui vous colle à la semelle, quoi. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. C'est vraiment un truc de propagande pour éviter de parler.
Si on veut permettre à ce peuple de retrouver sa dignité, même de retrouver son langage, ben on ne peut le faire que par l'action politique. Mais à ce point de vue-là, il n'est pas évident que nous sommes dans un pays colonial. Je crois que le monde a complètement oublié cela. L'Europe a l'impression que, bon, il a enterré le colonialisme, que c'est dépassé. Mais à la Martinique, c'est une réalité de tous les jours. Les termes sont différents, mais la situation est exactement la même. Nous sommes dans une situation coloniale. Le mot département, c'est tout simplement un alibi. C'est un camouflage. C'est un mot, un flatus vocis. Mais la réalité, elle, est coloniale. Il s'agit d'une hypocrisie. Alors, ou bien alors, on est dupe du vocabulaire officiel. D'ailleurs, que signifie le mot département ? Le mot département signifie qu'il y a un tout homogène, et chaque partie est un département. C'est le découpage d'un tout homogène. Ben, il est fait évident que la Martinique, la Guadeloupe, et la Guyane et la France n'appartiennent pas au même tout. Il s'agit d'entités, de petites entités, qui sont absolument spécifiques et absolument autonomes. Je crois que le problème essentiel, c'est essayer de rétablir l'homme martiniquais dans sa vérité, dans son authenticité, pour employer un mot qui malheureusement prend de singulières résonances ailleurs, permettre enfin l'avènement de l'homme martiniquais. Et si nous voulons l'épanouissement de l'homme martiniquais, il faut un changement de statut. Il faut créer des conditions objectives qui permettent cet épanouissement.
L'indépendance.
Bien sûr, Sarah, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut poser le problème. Et un mot d'ordre politique n'est pas, n'est pas simplement d'un désir, d'une aspiration. Il faut que ce mot d'ordre, que ce mot d'ordre politique, car un mot d'ordre politique est avant tout un mot d'ordre collectif. Il ne vient pas d'une impatience, de je ne sais quelle impatience, petite bourgeoise, mais il doit être le résumé d'une aspiration collective. Voici comment je l'entends. Or, je considère que, à l'heure actuelle, il n'y a aucune aspiration de ce genre dans le peuple martiniquais. Pour ma part, ce serait déjà beaucoup, à mon avis, si on permettait au peuple martiniquais de se dégager du statut dans lequel il est à l'heure actuelle et de prendre en main, même en partie, son propre destin. Le statut qui correspond le mieux à la spécificité antillaise, qui correspond le mieux à nos traditions, qui permet d'unir à la fois, de réconcilier à la fois nos besoins et nos possibilités, ben, c'est un statut d'autonomie. Et la politique et la culture, c'est deux faces d'une même réalité, et que c'est un seul et même combat, qui est un combat pour la libération de l'homme. Je crois qu'il faut affranchir l'homme de la bêtise, de la stupidité, de l'ignorance, bien sûr, de l'oppression, de la faim, de l'esclavage. Et je parle de toutes les formes d'esclavage, de toutes les formes de servitude, et pas seulement les servitudes physiques, toutes.
Voilà, Aimé Césaire, qu'on entend pour finir ce dossier. Il n'est même pas besoin de dire que c'est très très actuel comme constat, malheureusement, quand je l'entends parler de la Martinique et quand on pense aux mouvements de grève, de lutte qui se sont déroulés l'année dernière et bah, qui se poursuivent très certainement, mais dont on n'entend absolument plus parler. Voilà, ça fait réfléchir. Donc ça, c'était effectivement un extrait d'une archive sonore d'une émission coproduite par l'INA et le CNRS en 1977, qui était donc consacrée à Aimé Césaire. Et puis bah, le reste de l'émission, c'était donc un débat, rencontre avec Françoise Vergès, animée par Chexo, qui avait été enregistrée au festival Origine Contrôlée à Toulouse le 11 novembre 2008. Et ça avait fait l'objet donc de deux émissions sur notre antenne que vous pouvez retrouver sur notre site www.loldf.org. www.loldf.org et vous les retrouverez à la date du 18 et du 20 mars 2009 pour les deux parties qu'on avait réalisées avec ces sons. Voilà, donc bah c'est tout, l'émission va se terminer.
On approche, Chico, attention, enclenche les rétrofusées.
Voilà, donc cette émission, on l'a faite entre nanas, avec Sophie et Aude. Voilà, donc on vous retrouve la semaine prochaine, mercredi à 19h. Et puis sachez que l'émission est rediffusée le vendredi de 8h30 à 10h, donc sur cette antenne 106.3 FM FPP, que vous pouvez également retrouver sur internet rfpp.net. Et puis notre site, allez, je rappelle notre site www.loldf.org. On est encore un peu en travaux au niveau du site, mais vous pouvez quand même retrouver une bonne partie des archives. Ça se met en route, ça se met en place. Et puis les dernières émissions, presque à une semaine près. Donc voilà. Et puis bah, on vous laisse pour l'heure dans les bras des échos du Capricorne.
I'm not ready.